Alors, voyez là, on voit l'enracinement de Butler dans toute la culture. Donc ici des drag queens, hein, donc de ces travestissements, comment dire, excessifs, outranciers, qui justement cherchent à par l'outrance même, par la vulgarité même des caractéristiques de genre, à souligner, j'ai bien à souligner, le caractère artificiel du genre. Comme s'il s'agissait de prolonger un peu le caractère artificiel pour justement souligner son caractère artificiel. Donc ici, le présupposé de Butler, c'est que il n'y a pas d'origine. Il n'y a pas d'original. Je n'arrive pas à isoler une mesure première. Mesure première, c'est-à-dire ce qui va me permettre ensuite de me construire et de... Je suis toujours déjà dans l'imitation. Alors, en fait, c'est la conséquence, évidemment, d'une vision totalement sociale des comportements humains. Parce que si on réfléchit bien, c'est vrai que l'enfant, quand il est dans l'éducation, un des grands enjeux de l'éducation, c'est le mimétisme. L'enfant, il imite, ça c'est sûr. Finalement, l'enfant, il imite, bah, selon des procédures diverses, selon son âge, etc., ses parents. Mais il imite des parents qui eux-mêmes ont imité d'autres, qui ont imité d'autres. Bref, autrement dit, dans le monde humain, l'imitation est toujours l'imitation de quelqu'un d'autre qui lui-même a imité. D'accord ? Et donc, dans le développement de l'être humain à un niveau strictement social, on peut effectivement considérer qu'on n'atteint jamais un original premier. De là à dire que donc tout est lié à des conditionnements sociaux, il n'y a qu'un pas que Butler franchit allègrement. Pourquoi ? Parce que justement, tout le développement humain ici m'apparaît comme réduit à des conditionnements sociaux. Il y a une sorte de fond sociologique tel que tout ce qui relève des dynamismes internes à l'être humain sont comme occultés. Parce qu'en fait, l'origine ou l'original que Butler ne voit pas ou refuse de voir ou nie, bah, l'original, en fait, c'est justement, il se présente à nous, comme je disais ce matin, comme des aspirations qui sont présentes en nous et qui n'ont pas été mises en nous par nos parents ou par ceux que nous imitons. Finalement, lorsque j'imite, si on y réfléchit bien, quand j'imite, c'est que d'une certaine manière, ce que je vois chez l'autre éveille en moi un désir qui est présent. Autrement dit, le vecteur de l'imitation, bien sûr qu'il y a de l'imitation dans le monde humain, c'est même très important, mais l'imitation, elle est comme une sorte de détour qui me permet de me rejoindre moi-même. Quand j'imite, finalement, ça éveille en moi des choses. Ça crée comme un écho en moi. Mais si ça crée un écho, c'est que j'ai déjà en moi certaines aspirations que je n'aurais peut-être pas pu discerner tout seul. Et ce n'est que en rencontrant déjà chez mes parents, chez mes amis, ou dans tel ou tel médiateur qu'est autrui, c'est en rencontrant des réalités humaines qui ont déjà été actualisées que ce désir qui est en moi encore relativement indéterminé trouve son objet, se cristallise, et je dis « Ah tiens, moi j'ai envie d'être comme ça. » Mais qu'est-ce qui fait que je dis « Tiens, j'ai envie d'être comme ça ?» Ce qui n'est pas toujours une phrase consciente, hein, bien sûr, heureusement. Mais si j'ai envie d'être comme ça, c'est que ça, la rencontre de quelque chose, d'une certaine figure humaine, m'est apparue comme désirable. Et pourquoi ça m'est apparu comme désirable ? Parce que justement, j'ai en moi cette aspiration. Et donc, en fait, voyez ici que Butler, effectivement, elle a beau jeu de dire, mais il n'y a jamais d'imitation première. On est toujours dans le circuit de la société qui indéfiniment est pris dans une spirale. Et donc, tout ça est construit. Mais en fait, tout ça est construit. C'est pas pour ça que tout ça est construit. C'est qu'effectivement, comme j'ai essayé de l'expliquer ce matin, quand j'ai parlé des dispositions, des vertus, etc., il y a dans l'être humain des aspirations qui ne seront identifiées qu'après coup. Vous voyez ? Comment je peux savoir que j'aime le chocolat ? C'est un bon exemple de vendredi de carême. Qu'est-ce qui fait que je peux savoir que j'aime le chocolat ? Parce que j'ai déjà éprouvé le plaisir que j'avais à en manger. Sinon, je ne peux pas savoir. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce qui révèle en moi un désir conscient, c'est d'une certaine manière déjà d'avoir rencontré réellement l'objet de ce désir. Vous voyez ? Et donc, en fait, ce que Butler appelle la structure imitative du genre. Ça va loin, la structure imitative du genre. C'est-à-dire, le genre masculin-féminin, c'est, comme je disais tout à l'heure, un personnage qu'on a fini par assimiler par imprégnation imitative. La structure imitative du genre apparaît comme crédible parce qu'elle se greffe sur une réalité de notre expérience. C'est vrai ? Ma manière d'être homme a certainement été fortement influencée par le rapport d'imitation qui peut être plus ou moins développé ou perturbé que j'entretiens avec mon père dans le cas d'un homme, avec ma mère dans le cas d'une femme. Et c'est évident que là, il y a toute une histoire du sujet humain qu'on peut difficilement nier. Et c'est justement parce qu'il y a cette histoire qu'il peut avoir des dysfonctionnements et des blessures. Ça prouve bien que ce n'est pas automatique, bien sûr. Mais de là à dire, donc le genre n'est que imitatif, que c'est une imitation qui n'imite aucun modèle, aucun original. Donc il n'y a pas de mesure. Évidemment, le fait qu'il n'y ait pas de mesure implique qu'il n'y a pas de vérité sur le genre. Parce que la vérité, c'est d'être adéquat à une mesure, à un donné. S'il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de possibilité de parler de vérité. Ou le seul contexte de vérité, en mettant vérité entre guillemets, vous avez remarqué l'usage des guillemets dans ces textes, qui est très important, qui est une manière d'utiliser des mots en les mettant à distance, en disant on les utilise de la manière dont on les utilise habituellement, mais sans être dupe. La seule manière donc d'utiliser le mot vérité, c'est d'inscrire la vérité dans un cadre social particulier, contingent. Ce qui permet à Foucault de faire une histoire de la sexualité, etc. Mais donc ici, la vérité, évidemment, n'a pas d'acception véritable, puisqu'il n'y a pas de mesure première. Donc, À partir du moment où le genre est une structure imitative, sans original, alors l'orientation du désir peut être comprise. L'orientation du désir sexuel notamment, peut être comprise comme le résultat d'une imprégnation sociale. Autrement dit, c'est l'idée même de finalité qui est retraitée, qui est recyclée en lui donnant un tout autre statut. Ici, c'est plus une aspiration qui m'est antérieure et que je cherche à réaliser par mes actes. C'est un rôle que je cherche à jouer jusqu'au bout par désir d'être conforme aux attentes de la société. Oui. Vous savez que ce qu'on appelle le politiquement correct, hein, c'est né sur les campus américains. Le politiquement correct, c'était justement toute l'importance de la rectitude des mots, du langage. Bon. Et notamment dans la lutte contre les discriminations. Et donc finalement, la réforme des mots du langage, dont la lutte contre l'homophobie est un des aspects, c'est pas très étonnant que cette lutte pour une réforme du langage vienne de pensées qui considèrent que tout est langage. Parce que si tout est langage, bah, c'est par une réforme du langage qu'on va réformer les choses. Oui. Et donc, effectivement, ici, si la finalité n'est pas du tout naturelle, mais qu'elle est simplement le produit d'une imposition sociale qui passe justement par l'imitation et par les pratiques du langage, alors c'est peu à peu, en ouvrant d'autres modèles d'imitation, d'autres imitations possibles, c'est en changeant, en mettant dans le circuit social d'autres pratiques discursives, que peu à peu, on va transformer les choses. Et donc ici, d'une certaine manière, le succès de l'entreprise vérifiera la pertinence du diagnostic. Le succès de l'entreprise, c'est que effectivement, si l'hétérosexisme disparaît, ça prouvera bien la pertinence de l'exercice, à savoir que l'hétérosexisme ne tenait que parce que c'était une construction sociale. Et que s'il est plus fabriqué par des exigences sociales, bah, il disparaît. Allez. Non pas au profit d'une homosexualité obligatoire qui serait l'extrême inverse et qui serait aussi évidemment répréhensible, mais comme je disais hier, au profit de sexualité ludique et indéterminée qui offre toutes sortes de possibilités. Et donc, on voit ici, hein, la perte de l'origine, les conséquences de la perte de l'origine. La perte de la nature, plus profondément encore la perte de Dieu, qui, à partir du moment où l'origine est perdue, on est dans un processus qui, en lui-même, n'a plus d'orientation.